vendredi, ça lie l'intime à l'agréable. C'est le grand format dans la JT.
Et c'est sur l'autre radio.
Elle pourrait être l'héroïne d'un roman, une vie riche, pleine de chapitres singuliers, où se croisent les chemins de terre et les routes inexplorées. La femme que l'on rencontre aujourd'hui a tout d'une aventurière moderne. Elle a posé ses valises dans différents pays, allant de la ferme, du fournil, à la création d'une école maternelle hors contrat. Une école, elle aussi, à la ferme. Et aujourd'hui, c'est dans l'art-thérapie qu'elle soigne, qu'elle apaise, qu'elle écoute. C'est le grand format de la JT du local qui commence, nous sommes vendredi, et aujourd'hui on rencontre ensemble Ylvie de Cam Larsen. Quels fils invisibles relient ses expériences, ses engagements, ses voyages? C'est ce fil-là que l'on va tirer ensemble en remontant à son enfance, à ses premières envies, ses premières curiosités. Bienvenue amis auditeurs, à nos côtés, restez jusqu'au bout puisque, comme vous le savez, le vendredi, c'est aussi le jour de l'agenda culturel. On regarde ensemble les rendez-vous qui vous attendent. Mais tout de suite, on rencontre Ylvie. Ylvie de Cam Larsen, vous êtes art-thérapeute, mais vous avez déjà eu plusieurs vies entre l'art, le soin, la nature, en tout cas toujours le sensible. Votre parcours est intéressant et singulier, et j'ai eu envie de le partager avec l'auditeur de l'autre radio. Si je commence par le tout début, vous avez grandi dans une ferme collective en biodynamie aux Pays-Bas, avant d'arriver en Mayenne. Et puis comme il faut bien commencer avec une première question, qu'est-ce qu'une ferme en biodynamie?
C'est une bonne question. Une ferme en biodynamie, si on peut le dire... juste quelques mots, c'est pour moi une ferme qui est en lien en fait avec tout son environnement, toute la nature, et qui prend aussi en compte, on pourrait dire, le cosmos en fait, qui n'est pas juste là en lien avec la terre, mais aussi tout ce qui va avec quoi.
Quel souvenir est-ce que vous gardez de cette enfance et comment est-ce que cet environnement a façonné ce que vous pouvez être aujourd'hui, ou en tout cas le parcours qui va suivre?
Je pense que ça a été important pour moi de grandir dans une ferme comme ça, collective. D'avoir, dès ma petite enfance, vécu de beaucoup dans le partage, dans l'être ensemble, dans œuvrer ensemble vers des missions, des intentions communes. Enfin, il y avait un peu des idéaux aussi d'œuvrer ensemble sur une ferme. Donc ça, je pense que c'est déjà un peu une base avec laquelle j'ai toujours grandi, quoi, oui, qui m'a aussi quelque part fait rêver, parce que c'est aussi ça que je retrouve aujourd'hui dans là où j'habite et où j'ai aussi œuvré à la ferme à Bazougé.
C'était plusieurs familles, avec d'autres enfants, comment c'était organisé?
Ouais, c'était donc une ferme où on était, alors faut que je recompte, mais on était quatre familles. Et donc on a été beaucoup d'enfants du même âge, enfin un peu plus grand, un peu petit, et donc on se retrouvait donc à l'école, mais on se retrouvait aussi pour les fêtes ou pour des événements de ferme aussi, en fait des choses qui se faisaient en commun. Donc ça, c'est quelque chose que je me rappelle, en fait avoir beaucoup joué avec ma voisine qui avait à peu près mon âge, de se retrouver, et c'est quelque part touchant de voir que c'est aujourd'hui aussi ce qui se passe avec mes filles à moi, qui aujourd'hui aussi peuvent partager du temps comme ça avec des gens qui habitent sur la même ferme. Donc c'est un peu finalement ce que beaucoup ont connu aussi ou connaissent dans les villages, hein, dans les quartiers où les enfants peuvent jouer dehors et ils connaissent les voisins, tout le monde. Et malheureusement, c'est quelque chose qui se perd de plus en plus dans... un peu partout, parce qu'il y a beaucoup la crainte, la peur. Heureusement que ça existe encore dans certains endroits, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup la peur de laisser les enfants seuls jouer, enfin, ne serait-ce que qu'ils aillent seuls à l'école. Enfin, voilà. Donc c'est, moi, j'ai eu la chance, en tout cas, de grandir avec cette grande liberté de pouvoir jouer librement sur la ferme, d'être au contact des animaux, de plein de choses, quoi.
Et un jour, vous quittez les Pays-Bas pour venir vous installer en Mayenne.
Ça, c'était pas forcément un choix à moi, puisque j'étais enfant. Donc, c'est mes parents qui ont voulu avoir leur propre ferme. Et pour ça, c'était compliqué, du coup, de rester aux Pays-Bas, parce que là-bas, les terres sont très, très chères. Et ils venaient pas de famille d'agriculteurs. Donc, en fait, ils sont venus... Ils ont cherché autre part, à l'étranger, dont la France était une des possibilités. Et la Mayenne est venue comme ça, parce qu'en fait, il y avait une ferme qui les intéressait. Et ils ont, voilà, poser les valises avec la famille là-bas, donc dont moi et mon grand frère. Et du coup, j'ai grandi en France, enfin en Mayenne, à partir de l'âge de... Ouais, j'avais 5 ans et demi, presque 6 ans, quoi.
Un certain nombre d'années plus tard, autour de 15 ans, vous décidez de partir un an en Norvège, seul. Quel était ce projet-là ?
Donc, c'était après le collège. Et j'avais envie de voir autre chose. J'avais envie de voir autre chose. Bon, l'école, c'était pas ce qui me passionnait le plus. J'aimais beaucoup d'être dans les liens sociaux, enfin, mes amis, c'était très important pour moi. Donc je m'amusais à l'école parce qu'il y avait les amis, mais pour tout ce qui était de le scolaire, les apprentissages, je trouvais ça vraiment pas du tout intéressant, même très ennuyeux parfois. Heureusement que j'ai pas été mis en difficulté pour autant, mais je sentais bien que c'était... Enfin, s'il fallait pas que ça continue trop longtemps, parce que c'est pas dans ça que je trouvais, j'aspirais, quoi. L'inspiration et tout ça, donc c'était un peu, c'est un peu venu sur mon chemin. Je me rappelle qu'il y avait un article dans le journal que ma mère avait vu avec des échanges comme ça de jeunes qui faisaient ça, qui partaient à l'étranger, et on s'est dit bah tiens, pourquoi pas pourquoi pas tester. Et donc c'est comme ça que je me suis rapprochée de l'organisme AFS, qui en fait des échanges culturels comme ça sur une année. Donc on peut partir une année à l'étranger, dans beaucoup de pays différents dans le monde, et moi j'avais choisi du coup la Norvège. Et en fait, ce qui était intéressant en plus avec cet organisme-là, c'est qu'il n'y avait pas que la notion de langage, dans le sens où il y a beaucoup d'organismes où le but c'est par exemple d'apprendre l'anglais ou l'allemand, enfin souvent ce sont des langues un peu importantes, quoi. Là, en l'occurrence, norvégien, bon, c'est pas forcément la langue qui me sert beaucoup au quotidien, on va dire ça comme ça. Mais en fait, il y avait cette notion de rentrer dans une culture, de rentrer dans une autre famille, d'être accueilli dans une autre famille et de pouvoir... Donc évidemment, la langue, c'est quelque chose de très important de l'apprendre pour pouvoir rentrer dans cette culture. Mais il y avait vraiment cette idée, cette philosophie qui fait partie de cet organisme qui est en fait plus... On est apte à intégrer une nouvelle culture et du coup... en étant jeune, et plus on croit la tolérance aussi, en fait, des gens, de la société, et voilà, et plus on est apte à comprendre, bah, en fait, qu'on est différent, et qu'il y a des choses qui sont culturelles, et que voilà, et à l'époque, je sais pas si c'est encore comme ça aujourd'hui, avec l'internet qui va très vite aujourd'hui, mais à l'époque, c'était vraiment, il fallait pas être trop en lien avec sa famille d'origine, pour justement... vraiment s'intégrer dans le pays. Et donc, ne pas retourner non plus pour Noël. Enfin, il y avait vraiment ce côté. Pour vraiment intégrer. Et je pense que c'est quelque chose qui devient de plus en plus dur aujourd'hui, parce qu'avec tout ce qu'on connaît de les portables, on a tellement accès aujourd'hui au contact. Donc, quelque part, j'avais encore la chance que c'était le début de ça, moi, à l'époque. Donc, on était déjà sur les ordinateurs, mais c'était, bon, c'était pas dans nos poches, quoi.
Et alors, justement, comment est-ce qu'elle vous a marqué, cette culture norvégienne ?
Il y a beaucoup de choses que j'ai beaucoup aimées de la Norvège. C'est surtout ce lien à la nature qui est très, très fort. Et c'est une nature qui est très pure et très préservée. La Norvège est un pays très riche, qui est devenu riche assez tard. Enfin, ça fait pas longtemps qu'elle est riche. Bon, grâce on sait bien, le pétrole, tout ça. Mais il y a des gros décalages où quelque part, et ils ont leur maison, on va dire, en ville, dans les villages où ils ont tout, on va dire ça comme ça, où ils sont très aisés. Mais en même temps, ils ont un besoin fou de retourner dans la montagne et vivre au plus simplement possible, enfin, d'aller picher, d'aller faire du ski de fond. Mais vraiment, c'est pas du ski comme on connaît dans les stations, des choses comme ça. C'est vraiment juste, on va dans la nature et on fait nous-mêmes nos pistes, quoi. On va aller cueillir des baies, des champignons. Enfin, on est très, très en lien et c'est quelque chose de très fort où c'est inné, quoi. Enfin, tout le monde y va. C'est quelque chose de... Et cette intensité-là aussi, je la voyais, enfin, je la ressentais avec le fait de la lumière, qui est très très fort en Norvège. Donc, beaucoup de gens le savent, l'été, en fait, le soleil ne se couche pas. Selon, après, là où on est en Norvège, hein, parce que c'est un pays très très long. Mais même au sud de la Norvège, il n'y a pas d'obscurité, en fait. Il y a le crépuscule, mais en fait, l'obscurité n'est pas présente l'été, quoi. Et en hiver, évidemment, l'inverse. Donc là où, donc dans tout au nord, bon, là, il n'y a vraiment pas le soleil qui se lève. Donc moi, je n'étais pas autant au nord. Moi, j'étais plutôt au milieu du pays. Mais en fait, c'est vraiment quelques heures de soleil, quoi. Mais du coup, il y a quelque chose qui est très fort aussi, ça fait vraiment vivre les saisons de façon plus intense. On a l'impression que l'été et l'hiver sont très intenses, quoi. Et puis le printemps et l'automne sont très rapides, quelque part. Il y a quelque chose d'un peu magique aussi, du coup, qui prend beaucoup de place. Parce qu'en fait, vu qu'il fait froid et noir dehors, tout ce qui est à l'intérieur, il y a plus de chaleur humaine, quoi.
Il y a une différence dans les liens entre les gens.
C'est ça qui est presque étrange, parce qu'il y a un côté froid et distant, on pourrait dire. Et en même temps, une fois qu'on a réussi à créer le lien, qui peut mettre du temps, hein. Par contre, là, le lien, il est vraiment là. Et il y a quelque chose de très touchant dans l'affection que les uns ont pour les autres. J'ai beaucoup de mal avec cette culture-là, parce que c'est difficile de rentrer en contact. Si on n'y est qu'une semaine, il faut oublier, quoi. C'est pas la peine. D'accord. Mais il faut vraiment du temps. C'est vraiment quelque chose qui se fait sur le long temps. C'est vraiment...
Une pudeur, peut-être ou...
Ouais, je pense, d'une certaine façon, de dire, on connaît pas, on s'approche pas. Et puis aussi de la peur de se faire remarquer, qui est très forte aussi dans les pays scandinaves, où c'est un peu bon, tout le monde est comme tout le monde, quoi. Il ne faut pas trop se faire remarquer, donc il ne faut pas trop rester un peu humble aussi face à soi-même.
Vous avez ensuite fait l'expérience d'une ferme thérapeutique en Angleterre. Vous y étiez volontaire là-bas. Et donc un peu plus tard, vous décidez de repartir aux Pays-Bas pour reprendre des études. Et là, il y a un déclic, vous découvrez le travail de Bernard Leeuwenhoek.
Qui est un médecin qui en fait a beaucoup travaillé donc, avec les travaux de Rudolf Steiner, qui est un philosophe et qui a inspiré la biodynamie et tout ça. Donc c'est vraiment aussi un peu mon inspiration à moi aussi, quoi, dans le travail de cette vision qui est beaucoup plus globale de l'être humain, du monde, de tout ça. Et une vision holistique, en fait. Hein. Et qui, du coup, a travaillé avec tout ce qui était le travail de biographie, en fait. De mettre en lien, et c'est un travail qui a déjà beaucoup d'importance depuis longtemps, qu'on retrouve, en fait, des phases de vie. Donc, lui, en l'occurrence, il a divisé beaucoup par 7, en fait, les phases de 7 ans, de 0 à 7, de 7 à 14, et tout ça. Et on retrouve vraiment différentes dynamiques dans ces phases-là. Et, en fait, comme aussi beaucoup de choses, on peut les mettre en miroir et qui aident en fait quelque part à pouvoir prendre du recul et à mieux observer aussi quel est le fil rouge de notre vie, qu'est-ce qui se passe, les choses qui se répètent et de quelque part aussi de mieux vivre en fait ce qui nous arrive au jour le jour ou même des fois des choses graves, de pouvoir quelque part avoir cette aptitude à pouvoir s'observer, quoi. C'est ça que je trouve... beau aussi, c'est de cet équilibre qui est pour moi très important entre à quel point les choses sont écrites pour nous dans la vie et à quel point, et donc on parle du destin et tout ça, quoi, et à quel point on est maître de ce qu'on écrit, quoi. À quel point la page est blanche quand on est né et puis hop, c'est nous qui l'écrivons ou l'environnement ou... là où on est, l'éducation, voilà. Et donc, et ça, je trouve ça très très intéressant. Où est la limite entre les deux? Mais je pense que c'est ni l'un ni l'autre, c'est vraiment un juste milieu, quoi. Et des fois, ça penche plus vers l'un, des fois, ça penche plus vers l'autre. Et c'est ça que je trouve très beau dans ce travail, c'est d'aller un peu explorer, en fait. À quel moment il y a des choses en fait, qui sont passées dans ma vie et quelque part, j'y étais pour rien. Mais comment ça se fait qu'à chaque fois, c'est revenu, quoi? Il y a un truc, quand même.
Bien sûr, bien sûr.
Donc voilà,
et donc il y a eu la découverte de ce travail-là, vous êtes revenu en Mayenne un peu plus tard, et là vous n'êtes pas encore arrivé dans le soin, vous avez plutôt fait une expérience de paysanne boulangère, et puis il y a eu la création de l'école à la ferme.
Ouais. J'aime bien faire des détours.
C'est des allers-retours, justement, c'est intéressant.
Ouais, quand je suis arrivée, de retour en Mayenne, donc j'étais diplômée art-thérapeute, et je ne me voyais pas vraiment lancer ça tout de suite aussi, parce que voilà, j'étais enceinte, et puis du coup j'étais maman, et donc ça a pris aussi son temps de m'occuper des enfants en bas âge et tout ça. Mais à la place, ce que j'ai fait, c'est que qu'on est rentré sur la ferme familiale que mes parents avaient repris à Bazogé en 95 avec mon mari. Et tout de suite, nous, l'idée, c'était de pouvoir rendre cette ferme collective, parce que nous, on n'avait pas envie de se retrouver gérant de cette ferme-là quand même. Parents allaient partir à la retraite. Enfin, c'était pas du tout notre rêve. On avait plutôt envie de pouvoir être plusieurs familles et de partager le travail et puis vraiment d'être dans le monde agricole, être à plusieurs, quoi. Ne pas être seul à porter toute cette charge de travail. Et c'est des choses qui nous inspiraient, quoi, d'être dans une ferme collective où il y a plein de productions différentes, des ateliers qui s'entraident et en fait d'avoir vraiment cette vision globale de la ferme et où il y a aussi cette autonomie en fait de la ferme qui est très présente.
Vous nous avez dit, donc vous êtes devenue maman aussi, il y a peut-être quelque chose qui se passe, je ne sais pas, mais aussi de se dire qu'est-ce que je construis comme environnement maintenant aussi pour mes enfants.
Oui, complètement. Bah, ça, c'était très fort avec la création de l'école. Et du coup, bah, moi, j'avais vu plein d'autres systèmes éducatifs en Norvège avec le côté d'aller beaucoup, beaucoup dehors. Et puis aussi, moi-même, j'avais été dans une école Steiner aux Pays-Bas. Enfin, c'est une pédagogie que j'ai rencontrée plusieurs fois dans mon parcours de vie. Et voilà, moi, je me suis dit, il faut absolument qu'on essaye de trouver autre chose ou de faire autre chose. Et donc, je me suis dit, bah, qui ne tente rien n'a rien. Et c'est comme ça que j'ai essayé de voir dans mon entourage qui est-ce qui était intéressé. Tout au début, j'étais plutôt à chercher des gens qui voudraient le mettre en place à la place de moi. Mais je voyais bien que, bon, c'était pas à gagner. Donc, il fallait un peu que je mène... mène le travail, quoi, et que je montre à quel point j'ai envie. Et donc, c'est comme ça que ça s'est créé et qu'on a créé une association pour porter ce projet de créer une école à la ferme. Donc, au début, j'avais imaginé une école et donc c'est devenu une école maternelle. C'est beau aussi d'avoir cette interaction sur le territoire et de pas non plus de s'isoler complètement. Je pense que c'est important de s'éviter des erreurs qu'on peut faire quand on a des idées, des idéologies, de comment on pourrait voir le monde, comment on a envie de travailler, de que faire de l'entre-soi et de que être entouré de gens qui pensent pareil. Et je pense que c'est très important de rester en lien en fait avec plein de gens qui pensent différemment, de sortir de ces bulles, du coup que les enfants ils aient dans plein d'écoles différentes. Enfin, je pense que c'est important dans notre société qu'il faut cultiver ça. Et puis du coup, ça oblige aussi à rester éveillé et d'oser remettre en cause aussi, quoi. Donc peut-être que aussi comme ça, les choses vont évoluer un petit peu.
Donc l'école à la ferme existe toujours aujourd'hui.
Elle a fait sa quatrième rentrée. Elle a 3 ans. Ouais. Ouais. Donc ouais, elle, ça a mis du temps à se créer parce que c'était vraiment long. Ça s'ouvre pas comme c'est ça une école.
Et justement, on peut peut-être dire quelques mots sur l'école à la ferme. Quelle est sa particularité? En quoi elle se différencie du schéma classique, si je puis dire ça comme ça?
On est reconnu comme école, parce que sinon on ne pourrait pas exister, enfin on serait illégal. Donc on est vraiment reconnu, inspecté, on se doit de respecter tout ce qui va avec le statut d'école. Mais on est libre de le faire la façon dont on veut, quelque part. Donc on se doit de pouvoir prouver que les enfants ils ont bien le niveau, qu'ils ne sont pas laissés derrière dans leur... compétences et tout ça, les socles communs de connaissances, c'est comme ça qu'ils appellent ça. Mais on le fait comme on veut. Donc du coup, c'est un vrai sport hein, de pouvoir, quelque part, de faire comme on veut que ce soit fait, mais en même temps de pouvoir toujours prouver que derrière, il y a vraiment un apprentissage et tout ça. Et on part, en fait, du principe que l'enfant, surtout à cet âge-là, parce que du coup, on est maternelle, donc jusqu'à 6 ans, 6 ans et demi, des fois, eh ben, il est beaucoup dans le jeu, il est beaucoup dans l'imitation de l'adulte. C'est vraiment cette phase, la petite enfance, quoi, qui est vraiment mise à l'honneur. Et on essaye de rester dans cette phase de la petite enfance. Parce que c'est vrai que dans les écoles, on va dire classiques, avec surtout ce qui est demandé avec l'éducation nationale, c'est plus ça va, et en plus maintenant c'est presque de pire en pire, plus ça va et plus on voudrait qu'il rentre vite dans le système de savoir lire, écrire. Enfin, on est beaucoup dans le français matin à l'école en France. On ne s'intéresse pas forcément au lien social, comment est l'enfant avec les autres enfants, est-ce qu'il se plaît à l'école.
Ça, c'est quelque chose qui se passe justement si on regarde les autres cultures, il y a peut-être beaucoup plus...
Ah ouais, mais justement, c'était drôle parce que là, donc, j'étais en Norvège le mois dernier, j'étais chez des amis qui ont des enfants, les parents aller voir l'instit pour avoir un temps pour parler de l'enfant, quoi, comment il va avec l'enfant. les enfants devaient à l'avance préparer une petite évaluation pour eux-mêmes, et donc avec une fleur avec plein de pétales dedans, et donc du coup il fallait qu'ils colorient. Donc j'étais étonnée parce que j'échangeais avec cette famille en disant mais moi j'ai jamais vu ça, peut-être que ça existe en France, hein, j'espère, mais en tout cas moi j'ai jamais vu ça autour de moi. C'est que il n'y avait pas du tout de notion des apprentissages intellectuels dans cette fleur, c'était que des notions humaines en fait. Est-ce que je sens que je suis à ma place? Est-ce que j'arrive bien à me faire des amis? Est-ce que j'arrive facilement à faire des amis? Est-ce que, je ne sais plus là, les choses qu'il y avait, j'ai pris en photo pour me rappeler, que c'était que des notions comme ça. Est-ce que j'arrive facilement à prendre la parole? Et donc c'était vraiment de l'aspect, est-ce que humainement, est-ce que socialement, j'arrive à m'épanouir en fait? Parce que quelque part, et ça on le sait tous, hein, si on n'est pas bien... Bah, les apprentissages, c'est sûr, c'est pareil, ça va pas aller. Et donc l'attention est d'abord mise sur ça. Il faut absolument qu'on arrive à ce que l'enfant, il ait surtout envie, qu'il ait confiance en lui. C'est ça qu'il faut cultiver en fait, cette confiance et cette envie d'apprendre, plus que les compétences en soi des apprentissages, quoi.
On vient d'écouter Dan Reeder, Born a Worm, dans l'agité du local, et c'est sur l'autre radio. Et nous sommes toujours dans le grand format avec Ylvie de Cam Larsen, art thérapeute en Mayenne. On a pu échanger ensemble sur tous les chemins de traverse que vous avez pu prendre tout au long de votre parcours. Aujourd'hui, je le disais, vous êtes devenue art thérapeute. Vous vous êtes lancée sur cette formation que vous aviez entreprise il y a quelques temps.
Donc, du coup, j'ai travaillé dans le fournil de la ferme. L'idée était que je puisse faire ça à côté, que je puisse faire l'art-thérapie et le fournil. Mais en fait, j'ai jamais réussi. Donc là, ça fait 2 ans que j'ai arrêté de travailler au fournil et que j'essaye de vraiment explorer le domaine de l'art-thérapie, quoi.
Alors, pour l'auditeur de l'autre radio qui n'aurait peut-être jamais entendu parler d'art-thérapie, comment est-ce qu'on peut expliquer ce que c'est?
Donc l'art-thérapie, déjà, c'est une thérapie qui est non-verbale. Ça peut déjà paraître bizarre de dire ça. Déjà expliquer ça. En fait, donc, c'est pas les mots qui sont importants. Si on compare avec la psychologie, bah là, clairement, ça va être les mots. C'est une thérapie qui est cognitive, qui va passer beaucoup par les mots et la réflexion. l'art-thérapie, ça fait partie des thérapies qui sont beaucoup plus dans l'action, dans le faire, en fait. L'important, ça va être d'être dans une activité artistique. Je me suis spécialisée dans tout ce qui était les arts visuels, donc dessin, peinture et modelage. Et ça, dès le début de ma formation, en fait. Donc moi, je vais utiliser ces outils-là, qui vont être dans des arts plastiques, on pourrait dire, pour travailler la problématique avec le questionnement, enfin... problématique, c'est toujours un peu négatif, mais pourquoi la personne vient, quoi. Il y a trois processus, ou trois phases, ou trois façons de travailler qui viennent un peu l'un dans l'autre se mettre en place. Il y a la première phase qui est plutôt une phase de diagnostic où la personne va plutôt travailler librement. Et en fait, moi, en tant qu'art-thérapeute, je vais pouvoir regarder les travaux que la personne a fait et me permettre en fait de voir des choses à travers ses créations. Donc ça peut paraître un peu de la sorcellerie, mais c'est il y a un juste milieu, comment dire. Il y a des choses qui vont être intéressantes de voir. C'est important de le faire sur plusieurs séances et pas juste une séance, parce qu'en fait il faut voir les choses qui se répètent, qui reviennent. Et là, vraiment, s'il y a des gestes très clairs qui reviennent, là ça va vraiment nous apporter des éléments intéressants, en fait, qui vont pouvoir nous aider à mieux comprendre cette personne là. Moi, j'aime bien dire aussi, quand on parle avec les mots, on est beaucoup dans le contrôle, dans l'analyse, de la réflexion, l'intellect. Quelque part, on sait ce qu'on va dire, quoi.
Et dans le contrôle de ce qu'on renvoie.
Oui, voilà, exactement. Et quand on est dans l'artistique, surtout quand c'est un travail libre, où il n'y a pas de consignes claires, eh bien, en fait, c'est vraiment une expression... moi, j'aime bien dire que c'est plus de l'âme, en fait. C'est une expression qui est beaucoup plus... pur de l'intérieur, enfin, qui vient, et que des fois on sait pas trop, enfin c'est beaucoup plus inconscient, en fait. Et donc en tant qu'art thérapeute, on peut en fait lire des choses dedans, tout en faisant évidemment attention. C'est pas parce qu'il y a telle couleur que tout de suite ça veut dire ça, enfin c'est vraiment une lecture avec pincette, en fait, hein. C'est vraiment regarder, ah tiens, il y a des choses qui reviennent, peut-être que il y a des choses toujours à vérifier, quoi. Et donc, ça permet d'avoir cette image globale de la personne, de permet aussi d'aider à voir qu'est-ce qu'on va venir travailler ou comment on va venir le travailler. Parce que des fois, dans les dessins, on par exemple, des choses qu'on peut voir clairement, ça va être, ah bah tiens, cette personne-là, elle est vraiment, c'est très, très intense dans son intellect, dans sa façon de penser, beaucoup dans le contrôle. Ça, c'est des choses qu'on peut voir, mais en fait, ne serait-ce que dans sa façon d'aborder aussi le dessin, de dessiner, et aussi dans la parole, hein, dans sa façon d'entrer. Et du coup, ça va être, tiens, est-ce qu'il y a besoin de lâcher un peu ça ? Est-ce qu'il y a besoin de le mettre en mouvement pour que ça puisse un peu s'apaiser, par exemple ? Des choses comme ça, ou quelqu'un qui serait beaucoup trop dans l'émotionnel, où ça prend beaucoup trop de place, ben, là aussi, comment on pourrait apaiser cette partie-là ? Enfin, voilà, donc comment travailler sur différents endroits, différentes sphères, différentes couches, quoi. Et il y a une autre partie, une autre phase qui est plutôt de l'expression, même si là aussi c'était finalement de l'expression, hein, mais qui va être en fait de se mettre en lien avec qu'est-ce qui va pas aussi. Moi, j'aime bien travailler avec le corps, donc de ressentir dans le corps des sensations qui, en fait, du coup, vont pouvoir nous aider, en fait, à mieux vivre, à mieux comprendre l'inconscient, en fait, de qu'est-ce qui se vit. Et du coup, par le fait de l'exprimer artistiquement, permet de pouvoir mieux l'observer, de prendre la distance, de le regarder et du coup de pouvoir l'accueillir aussi, en fait. C'est beaucoup plus simple de mettre de l'attention dans un dessin qui a été fait que de mettre de l'attention à l'intérieur de soi, parce qu'on est tellement identifié à ce qu'on ressent que du coup on n'arrive pas toujours à créer cette distance. Donc ça aussi c'est une phase ou un processus qui est utilisé, mais il y a aussi cette partie qui est souvent peu connue, qui en fait, moi j'appelle ça souvent l'exercice plutôt d'impression, parce qu'à l'inverse de l'expression, là on va venir nourrir, en fait. Et là l'idée est plutôt de donner des exercices spécifiques que du coup moi en tant qu'art thérapeute je propose, aujourd'hui il y a tel, enfin par rapport à ce qui s'est passé dans les autres séances ou pour la séance il y a tel besoin, et on va plutôt faire un exercice comme ça pour venir calmer cette chose. Enfin, par exemple, s'il y a besoin vraiment d'ancrage avant de rentrer en matière, parce qu'on sent que la personne a vraiment besoin d'être plus présent à soi, juste comme ça, de travailler par exemple des méditations en dessin, ou de travailler avec l'argile, d'être plus en lien avec la matière, le contact avec les mains. Enfin, voilà, il y a énormément d'exercices différents qui peuvent être faits. Ça va vraiment être presque comme un exercice, un médicament qui va être donné à la personne pour l'aider dans le processus, quoi. Mmh. Donc c'est vraiment différentes façons de travailler qui, en fait, tout le temps, on passe de l'un à l'autre, quoi. Moi, je travaille avec les adultes et ça peut être n'importe quelle problématique, questionnement qui est présent. En fait, ce qui est intéressant avec l'art thérapie, c'est que ça peut aussi être très intéressant pour les gens qui n'ont pas les mots. Moi, je suis un peu dans le même cas, j'ai toujours du mal à trouver les mots. mais du coup, ont besoin de le vivre de l'intérieur. Mais ça peut aussi être complètement l'opposé des gens qui sont beaucoup trop justement dans la tête et tout le temps à tout analyser, de les aider à aller vivre plus d'intérieur. Parce que c'est vraiment ça que l'art thérapie permet, c'est de vivre intérieurement et de vraiment être présent et être actif dans le processus. Souvent, il faut bien une dizaine de séances pour rentrer vraiment dans ce travail-là. Et après, selon la personne, à quel point elle a envie de vraiment continuer, d'aller plus loin ou d'arrêter... selon ce qu'elle recherche, quoi, ce qu'elle a besoin.
Et il y a possibilité également, je crois, que vous proposez aussi en groupe, des séances de groupe.
Ouais, après, souvent, j'appelle ça pas de la thérapie quand je travaille en groupe, parce que moi, j'ai vraiment été formée à ce que la thérapie elle soit vraiment individualisée, comme j'expliquais là, où c'est vraiment des exercices qui sont pour cette personne-là, d'accueillir vraiment, d'être en lien fortement avec la personne, ce qu'elle a besoin. Et donc, j'ai déjà fait les ateliers, j'en fais les ateliers, mais pour moi, quand je fais les ateliers, c'est plus ce côté de... On est plus dans le bien-être, on va plus être dans, entre guillemets, la prévention, de se faire du bien. C'est aussi plus accessible, parce que du coup, il n'y a pas cette notion de « on va rentrer en thérapie avec des questionnements personnalisés, tout ça, qui peuvent des fois faire peur aussi ». Et du coup, c'est une première approche de faire des ateliers, c'est aussi juste de venir explorer, mais sans avoir besoin d'aller plus loin, quoi. Sans avoir besoin d'aller chercher à l'intérieur trop profond, de juste voir, tiens, qu'est-ce que ça me fait de faire ça, et c'est juste agréable ou peut-être juste désagréable, et ça s'arrête là, en fait, en quelque sorte, ouais.
Et alors après tout ce chemin là qu'on a un peu parcouru ensemble, quelles sont peut-être vos projections sur l'avenir ? Est-ce que finalement pour l'instant on en est là et on verra, ou comment vous fonctionnez aujourd'hui ? Comment vous projetez ?
Ouais. Ouais, c'est une bonne question.
Parce qu'il faut se projeter toujours finalement aussi.
Ouais, pour moi, c'est important que je puisse vraiment prendre ce temps-là de développer l'art-thérapie, parce que ça prend du temps de se faire connaître, et puis aussi je vois bien en fait que les gens ils connaissent pas l'art-thérapie, donc c'est aussi de faire connaître l'art-thérapie pour qu'ils puissent savoir quand est-ce qu'on peut avoir besoin d'un art-thérapeute. Et ça prend beaucoup de temps d'investir dans cette partie-là. Mais au fond, j'ai un rêve que j'ai depuis très très longtemps, c'est de pouvoir avoir un peu un lieu thérapeutique et on pourrait vraiment avoir une pluridisciplinarité aussi avec médecin, thérapeute, et vraiment de pouvoir accueillir des patients et de pouvoir les aider vraiment de façon globale, en fait, de pouvoir que ce soit aussi le médecin qui puisse indiquer, là il faudrait plus travailler sur le corps, là il faudrait plus travailler avec de l'art, là il faudrait plus aller sur une partie cognitive, et de pouvoir vraiment avoir ce travail global et d'accompagner la personne de façon globale. Ça, c'est vraiment mon rêve, quoi. Mais bon, je le mets un peu de côté parce que je sais que c'est un travail très long mais bon, on ne sait jamais, peut-être qu'il y a des auditeurs qui...
Totalement. Comment on vous contacte justement ? Où est-ce qu'on peut... Donc il y a un site internet sur lequel, si ça interpelle l'auditeur, s'il se dit tiens, c'est peut-être quelque chose, ne serait-ce que pour poser une question, prendre des renseignements auprès de vous.
Oui, complètement, oui. Il y a mon site internet, ouais, donc c'est ylvidecamlarsen.com, tout attaché. Et sinon, il y a mon adresse mail qui est thérapieartistique@protonmail.com. Et sinon, j'ai mon numéro de téléphone aussi, le 07 50 099 671.
Super. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous, Ylvie. C'est un plaisir de découvrir ce beau parcours. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Dans quelques instants, on continue le grand format de l'AJT du local ensemble avec l'agenda culturel. Et alors, j'ai eu envie de réécouter un morceau de Dan Reeder et j'ai choisi Gin Tonic. C'est vraiment pas mal pour un vendredi, écoutez.
Don't fucking puke in my car, you said, as we pulled into the mini mart. Well, I know there's only one of you, but I see two of you, and why are you so far apart? Gin tonic was a hobby of mine. Didn't care for beer back then. Whiskey tastes like turpentine. Made my lips turn all black if I drank red wine. Roll down the window, I'll be fine. Boom, ba-dum, boom, 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 ba-dum, boom, 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 ba-da-dum, boom. Gin tonic was a hobby of mine. Didn't care for beer back then. Whiskey tastes like turpentine. Made my lips turn all black if I drank red wine. Roll down the window, man, I'll be fine.
On est de retour dans l'agité du local sur l'autre radio, c'est le grand format aujourd'hui et c'est maintenant le moment de l'agenda culturel de la semaine. Alors on en profite puisqu'Ylvie est avec nous aujourd'hui dans cette émission. L'école à la ferme a justement un événement à nous annoncer.
Le 30 novembre de 14h à 19h, il y a le marché de l'Avent à la ferme. C'est le marché de l'Avent qui est organisé par la ferme arc-en-ciel et la jardinière, l'association La Jardinière qui porte l'école maternelle à la ferme. Les pieds dans l'herbe à Bazougé. Et donc c'est un marché de l'Avent qui est à la ferme, qui est à Bazougé au lieu d'y placer. Et qu'il y aura plein de stands, de ventes avec des produits locaux, bio, de la poterie, de la vannerie, de travail de cuir, de la coutellerie, bref, des vêtements cousus à la main. Il y a même la librairie ambulante, il y a même la chocolaterie Bim, chocolaterie locale. Bref, que de belles choses. Et puis même une scène ouverte, alors il ne faut pas hésiter à venir avec des instruments, votre voix, enfin bref, tout ce que vous avez envie de partager. Et puis une petite marche de lanterne à 17h avec les enfants qui veulent participer avec une petite lampe.
Et alors votre agenda de la semaine, ça continue avec le théâtre L'Entracte à Sablé-sur-Sarthe. On écoute Roland Bouchon qui en est son directeur nous parler de ce qui nous attend le 1er décembre. Écoutez.
Imperfecto, c'est un spectacle de danse qui m'a touché et vous allez un petit peu comprendre... Pourquoi dans mon accent on entend parfois un petit peu le sud alors je vois Imperfecto, en fait c'est du flamenco, un danseur de flamenco qui vient de l'école de Madrid avec des musiciens de flamenco. Donc il y a toute cette culture espagnole avec ce soleil qui nous apporte dans cette esthétique musicale et chorégraphique. Et Jeanne Gallois, qui est une danseuse plutôt française, qui vient des danses de la rue, danse contemporaine, qui est aujourd'hui artiste associée au Théâtre de Chaillot à Paris, a rencontré David Correa. Et puis l'alchimie a marché. On dit qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Et de cette rencontre artistique est né Imperfecto, ou plutôt Imperfection. Et avec l'idée que deux cultures complètement différentes vont s'apprivoiser, apprendre à se connaître, se confronter pour finalement, après, pendant le spectacle, fusionner ensemble. Et ces deux danseurs, avec ces deux atmosphères complètement différentes, vont être accompagnés par trois merveilleux musiciens, dont le chanteur flamenco. Et donc, on est sur un spectacle de danse autant musical que chorégraphique. L'idée, c'est qu'on vous amène du soleil. Ces deux chorégraphes, ces deux danseurs sont magnifiques. Ils sont jeunes et en plus, ils sont bons. Ils sont tout pour eux. Les musiciens, c'est d'un niveau absolument incroyable. Ça donne 1h15 de danse, de confrontation, de choc des cultures. Et pour finir, avec quelques notes d'humour très surprenantes. Et c'est une très belle réalisation de ces deux-là.
Ensuite, l'agenda de la semaine se termine avec le carré à Château-Gontier. On reviendra plus en détail sur cette date la semaine prochaine. Mais écoutez déjà Maël Grenier, directeur du carré, nous en dire quelques mots.
Nous voici au mois de décembre pour accueillir MU le jeudi 5 décembre. Alors MU, c'est la dernière création d'une des équipes artistiques associées, la compagnie Tire pas la nappe avec Marion Aubert et Marion Guerrero, que les spectateurs qui sont déjà venus ont certainement déjà découvert avec nous. On parlait des thématiques un peu centrales dans la saison ou alors le reflet de l'époque par rapport à ce que les artistes portent à la scène. Et bien, MU, c'est un peu tout ça. C'est-à-dire que c'est l'histoire d'une femme et de la nécessaire émancipation d'une femme dans sa quarantaine. Voilà. Donc c'est une histoire assez intime au départ. Voilà, l'épopée d'une femme qui est traversée par des questions fondamentales sur sa vie, sur son parcours de femme, dans sa vie intime et dans sa vie professionnelle. Et elle part dans les Cévennes à la recherche un peu de son identité, de son histoire et de son avenir. Et elle se retrouve avec d'autres femmes qui ont des problématiques plus ou moins proches et qui sont arrivées là pour des histoires qui traversent celles de Marie, la protagoniste dont j'ai parlé. Pour des parcours qui peuvent être différents, proches et à la fois souvent assez, assez étonnamment détraqués. Voilà. Il s'agit des vies de femmes mises sous la loupe de Marion Aubert, l'autrice. Alors là, c'est un spectacle difficile à décrire, c'est un spectacle d'expérience à vraiment partager. C'est porté par 7 comédiennes qui sont vraiment, vraiment très chouettes à voir. C'est assez jubilatoire. Pour ça, il faut venir pour savoir de quoi on parle. C'est quand même une ode à la féminité, une ode à l'émancipation, une ode à la liberté et à la capacité à pousser un grand cri de libération. Quoi. Donc quelque part, là aussi, on est sur une date assez jubilatoire. Difficile à décrire, mais vraiment à partager, à découvrir vraiment ici. Quoi.
La JT du local s'arrête ici, mais ça ne s'arrête jamais sur les ondes de l'autre radio. Justement, votre soirée commence avec Dance Hall Social Club. De quoi plonger nos oreilles dans des sucreries musicales du passé. On ne se quitte pas sans jeter un coup d'œil sur le week-end. Samedi, rendez-vous à 13h pour écouter Rock Dreams pendant 30 minutes. L'émission vous permet de découvrir un groupe et ce moment, on le passe évidemment avec Yann. Dimanche, 11h, on retrouve bien sûr l'équipe de Sport Épique. Ils nous parlent évidemment du sport en Mayenne, mais pas seulement. En tout cas, on est avec eux pour des interviews, des quiz, des chroniques et toujours eh bien, dans la bonne humeur qu'on leur connaît bien. Le week-end se termine en jazz avec Jazz Attitude comme chaque dimanche et ça commence à 21h. De quoi nous aider à fermer les yeux et bien dormir avant qu'une nouvelle semaine commence. Moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission de l'Agité du local. D'ici là, soyez bienveillants, patients, à l'écoute de ceux qui vous entourent ou à l'écoute de l'autre radio, on ne perd pas le nord ici. Le week-end, c'est aussi pour ça et c'est une belle manière de faire le bien.
Oh, c'est déjà la fin, qu'est-ce qu'on va faire maintenant?
Mimi, il y a d'autres émissions qui sont bien aussi sur l'autre radio.